Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment, 6 heures?
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Si vous nous rejoignez, merci de vous réveiller avec France Culture et un autre jour est possible. En ce vendredi 11 mars 2016, c'est une journée spéciale sur notre antenne. Une journée pour raconter le monde d'aujourd'hui. Une journée spécialement conçue pour raconter aussi la Syrie. La Syrie, la guerre qui change le monde, avec des reportages, des analyses, des mises en perspective historiques. Et beaucoup de culture, bien évidemment. Jusqu'à 22h, toutes nos émissions et reportages seront consacrés donc à ce conflit qui a changé le monde, avec Valérie Crova qui s'est rendue dans 2 villes près de Damas et Omar Waman qui est du côté des rebelles kurdes. Et puis, autre invité de cette journée, l'académicien Jean-Christophe Ruffin qui livrera au cours de cette journée sa chronologie personnelle en 10 dates, 10 moments d'antenne sur France Culture. Des événements qui sont survenus bien sûr en Syrie, mais aussi au Moyen-Orient, dans les Balkans et partout en Europe. Pour un autre jour est possible, je serai ce matin avec Annie Sartforia depuis lundi. Elle nous raconte l'histoire de Palmyre de sa splendeur jusqu'au saccage. Et aujourd'hui, cette professeure d'histoire ancienne qui est aussi spécialiste de Palmyre nous dira comment ce site est perçu par les Syriens. En deuxième partie, je reçois l'artiste plasticien Hamid Souleyman, né en 1986. Il a quitté la Syrie où il était condamné et menacé pour venir en France parce que c'est le seul pays où on peut rêver de faire de la bande dessinée. Et il tenait à faire une bande dessinée. Ce roman graphique, son premier roman graphique, Freedom Hospital, sortira bientôt en avril dans les librairies, mais dès la semaine prochaine au Salon du Livre et au Festival de Bastia. Il sera mon invité de deuxième partie. Retour à Palmyre par Annie Sartforia aujourd'hui. Dernier épisode. Aujourd'hui, on va parler de Palmyre depuis la guerre. Et qu'est-ce que... D'ailleurs, vous nous avez expliqué en début de semaine, lors du premier épisode, à quel point le régime d'Al-Assad avait profité du caractère touristique, archéologique du site. Aujourd'hui, les Syriens connaissent Palmyre, mais que représente pour eux Palmyre ?
Alors, je voudrais une précision. Palmyre, c'était un site archéologique magnifique, mis en valeur, exalté, etc., par le régime. Pas oublier que Palmyre, c'était aussi une des prisons les plus féroces du régime des Assad. Il y avait à Palmyre une prison qui se trouvait près des pistes de l'aérodrome de Palmyre, où il y a eu des massacres féroces du temps du père de l'actuel dirigeant. On a massacré des centaines de prisonniers dans la prison de Palmyre, qui étaient détenus dans des conditions absolument abominables.
Mais une prison moderne, construite au beau milieu
bien
du
sûr.
Site.
Ah bah, elle n'était pas dans le site antique, mais elle était proche de l'aéroport de Palmyre. D'accord. Qui était à la limite du village moderne, de la ville moderne. Donc la prison de Palmyre, je peux vous assurer que pour les Syriens, ça représente quelque chose, parce que c'était un véritable bagne, c'était véritablement quelque chose d'abominable. Les conditions de détention de ces détenus dans des cellules sous les pistes de l'aéroport, enfin, des choses abominables.
Enfin, tout ça, c'est quand même bien de rappeler que le mot Palmyre pouvait signifier cela pour les Syriens.
Ça peut signifier ça aussi, ouais. Effectivement. Les Syriens ont beaucoup œuvré à la restauration, à la préservation des monuments. Khalil al-Assad, le directeur du site qui a été sauvagement assassiné par Daesh, avait beaucoup œuvré dans ce sens. Il avait accueilli de façon très généreuse et ouverte les équipes d'archéologues du monde entier qui venaient pour des missions à Palmyre. Donc il y avait plusieurs nationalités d'archéologues qui ont travaillé à Palmyre.
Dans des Syriens ?
Des Syriens. Alors c'est toujours maintenant, depuis quelques années, c'était toujours des missions syro quelque chose. C'est-à-dire que les Syriens tenaient à ce qu'on associe évidemment leurs archéologues.
Archéologues,
oui, d'accord. Bien sûr.
Pas seulement des représentants de l'État policier.
Ah ben ça, de toute façon, toute mission archéologique était surveillée par des représentants des Mourabarat, des services secrets. Il n'est pas exclu que peut-être certains archéologues aient été eux aussi appartenus aux services secrets. Ça, vous savez, en Syrie, les choses étaient... C'est un peu l'Allemagne de l'Est. Tout le monde dénonçait tout le monde. Tout le monde était sollicité pour raconter ce qu'il avait entendu, ce qu'il avait vu, etc. Donc, vous savez, la frontière était très ténue entre peut-être certaines personnes qui venaient fouiller et puis qui donnaient des renseignements par ailleurs. Ils y étaient parfois obligés.
Bon, mais néanmoins, c'est une question que je voulais vous poser, Annie Sartre-Fauria. Est-ce que l'histoire que vous nous racontez depuis le début de cette semaine de Palmyre, c'est à peu près l'histoire que racontent les manuels d'histoire, les profs d'histoire syriens
pas du tout.
Alors, c'est quoi l'histoire officielle syrienne de Palmyre ?
Alors, le problème, c'est que Palmyre, pour le régime des Assad, mais peut-être même déjà avant, Zénobie est une espèce d'héroïne nationale qui a cherché à secouer le joug des méchants colonisateurs. Bon, c'est pas du tout ça, c'est encore très vivace dans certaines pièces de théâtre, opéra, etc., qui peuvent se monter ou se développer actuellement en Orient. C'est pas du tout ça, j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, peut-être un peu trop rapidement, mais néanmoins, c'est comme ça qu'ils la vivent, parce que il y a une espèce d'imagerie, une espèce de fierté nationale qui a été exaltée par des nationalistes locaux. Et parmi eux, le général Tlass, qui a commis quelques ouvrages sur Zénobie et sur Palmyre, qui est le chantre de cette idéologie, si vous voulez. Pour lui, la période romaine, c'est une période noire, c'est une période abominable, affreuse. Quand on voit le site de Palmyre, on a du mal quand même à imaginer que c'était si noir que ça, et si abominable et affreux. Il y a cette espèce d'idée que Zénobie a secoué le joug romain, etc. Ce qui est idiot, parce que au fond, c'est beaucoup plus valorisant de penser qu'elle a voulu être impératrice de Rome que de vouloir simplement créer un petit royaume local à Palmyre. Mais bon, c'est comme ça, on n'arrive pas à secouer, si vous voulez, ces scories qui ont été forgées par une histoire nationaliste. Et ça, c'est dommage.
Et toute une époque voilà. Anticolonialiste qui a porté le panarabisme.
Hein. Voilà, il y a ça aussi. Donc, si vous voulez, les manuels d'histoire représentent Palmyre et Zénobie de manière sans doute très biaisée par rapport à la réalité à laquelle se rallient les scientifiques ou les savants qui ont travaillé sur le site.
Mais même en aparté, quand vous aviez des discussions avec les experts, les scientifiques syriens, c'était cette version officielle qui revenait.
Ah oui, on a parfois beaucoup de mal à leur faire admettre que on peut avoir une autre vision des choses. D'ailleurs, souvent, ça tient aussi à leur culture. La chose écrite, elle n'est pas contestée. Donc, on a dit ça un jour. Donc, vous venez avec d'autres arguments, essayez de leur faire comprendre que en 100 ans, 150 ans, l'histoire se modifie parce que chaque fois qu'on a un document nouveau, on réévalue ce que l'on croyait, etc. C'est extrêmement difficile à faire passer.
Et aujourd'hui, Palmyre détruit, Palmyre pillé, je suppose que ça doit représenter quelque chose pour aussi bien pour les Syriens que pour le reste de la communauté internationale.
Ah mais oui, de toute façon, toute la communauté internationale, tous ceux qui ont travaillé à Palmyre, tous ceux qui s'intéressaient au site sont absolument atterrés par ce qui se passe. Enfin, c'est abominable. C'est abominable pour le site, c'est abominable pour les Syriens, parce qu'il faut pas oublier que cette guerre, elle a quand même tuer au moins 300 000 personnes. Enfin, on ne sait pas exactement. Je pense qu'on découvrira des choses bien pires encore que ce que l'on croyait lorsque la guerre sera terminée. Quand est-ce qu'elle va se terminer ? Ça, c'est une hypothèse qu'on ne peut pas aujourd'hui envisagée avec un terme précis. C'est une guerre qui a fait des millions de déplacés. Donc, si vous voulez, c'est catastrophique pour les Syriens, c'est catastrophique pour l'Occident qui aimait ce pays, qui y a travaillé, qui aimait ces gens, qui nous ont toujours reçus de manière absolument formidable, toujours très accueillants, etc. Donc c'est un drame absolu.
Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui concrètement pour Palmyre ?
Ben pour Palmyre, actuellement rien, parce que le site est inaccessible. Moi, je vous disais il y a quelques jours que quand on a des images, c'est en caméra cachée. Donc quand on a des photos, c'est au péril de la vie des gens qu'on les reçoit. Donc pour Palmyre, on peut rien faire. Ce qu'il faudra faire, c'est une évaluation tout à fait précise des dégâts. Bon, voir qu'est-ce qui est reconstructible, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est à passer aux pertes et profits. Je crois malheureusement que le temple de Bel et le temple de Baal Shamin, comme les tours funéraires, on les retrouvera jamais comme avant. Est-il raisonnable d'envisager de reconstruire ? Ça ne sera jamais que du neuf. Qu'est-ce qu'on va reconstruire ? Le temple de Bel tel qu'il était quand il était intact au deuxième siècle? Ou bien est-ce qu'on va reconstruire le temple tel qu'il était juste avant la guerre? Est-ce que ça a un sens de reconstruire? Je ne sais pas. J'avoue que moi, je suis pour une reconstruction des choses qui sont en bloc, tombées à terre, qu'on les remonte, très bien. Quant à reconstituer intégralement des monuments qui sont à l'état de gravat, j'avoue que je ne partage pas cette idée-là, mais c'est pas moi qui déciderai. Donc, je pense que. Et puis, est-ce que ce sera la priorité? Vous savez, quand la guerre va être terminée, il y aura tellement de choses à reconstruire en Syrie pour reloger les gens, pour redonner une vie normale à ce pays. Est-ce que les ruines vont être la priorité? C'est pas certain. Et qui va payer? Si ce sont les États du Golfe, ils auront peut-être pas trop d'état d'âme vis-à-vis des ruines. Et peut-être vont-ils faire de l'argent avec des immeubles, avec des villes modernes, etc. Là, j'avoue que pour l'instant, tant que la guerre n'est pas terminée, on ne peut pas se projeter complètement. On ne peut pas très bien savoir ce qui sera possible de faire ou pas.
J'ai du mal à imaginer que c'est la première fois que Palmyre subit de telles violences, de telles destructions, de tels pillages.
À cette échelle-là, oui. Oui, parce que, c'est vrai que le temps a fait son œuvre dans Palmyre. Il y a des colonnes qui sont tombées, il y a eu des tremblements de terre. Quand les soldats français de l'époque du mandat patrouillaient dans Palmyre avec leurs auto-chenilles, etc., sous le Grand Arc, c'était pas mieux. Hein. On a des images de ça. On peut même dire d'ailleurs que ce site qui était ouvert à la visite, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, c'était pas non plus forcément une bonne chose pour sa préservation. On voyait le vendredi les gens monter en 4x4 sur la butte de Belkis au pied des tours, faire cuire les brochettes, jeter les ordures. Bon, et personne n'était là pour leur dire ne faites pas ça. Ou les bédouins qui venaient s'installer pile dans un tombeau qui venait d'être fouillé et qui s'en servaient comme des potoirs. Donc, on peut pas dire que le site était merveilleusement protégé. Mais d'un autre côté, on peut pas non plus le clore. Moi, je suis pas pour. On a vu ça à Djerash. Je trouve ça abominable. Ce site enclos où il faut traverser un souk de 1 km avant d'accéder aux ruines, qui est entouré de grilles. Bon, moi, Palmyre, je veux pas le voir comme ça.
En plus, c'est pas très efficace quand on peut le voir à Naples.
Puis c'est très grand, le site de Palmyre. Ça serait une œuvre gigantesque de faire ça. Mais on pourrait quand même envisager une surveillance un petit peu plus active. Simplement pour ça, il faudra un régime qui ne pratique pas la corruption, qui ne pratique pas le passe-droit, qui ne ferme pas les yeux sur les exactions des puissants, qui pille sans avoir de retombées, etc. Donc tout ça, c'est une œuvre gigantesque à laquelle il va falloir s'atteler. Mais en même temps, on ne sait même pas qui va gouverner la Syrie quand la guerre sera finie.
La dernière fois que vous avez visité Palmyre, Annie Sartforia, oui. Ça remonte à quelle année?
C'était au mois de mai 2011. C'est-à-dire que la révolution avait déjà commencé dans le sud de la Syrie, à Deraa, puisque Deraa était le début de la révolution qui a commencé le 15 mars. Et déjà, bon, c'était un peu difficile de se rendre à Palmyre parce qu'il y avait des contrôles le long des routes. Bon, mais le site était accessible, mais il n'y avait plus personne. On était tout seul sur le site. Il y avait trois. Il devait y avoir un autre couple avec un guide, un jeune japonais en moto, et nous deux, mon mari et moi. C'est tout. On avait le site pour nous tout seul.
Et la première fois ?
Et la première fois, c'était en 1970. Voilà.
Et en 41 ans, qu'est-ce qui a changé à Palmyre ? Quels sont les changements que vous avez pu voir ?
Alors, qu'est-ce qui a changé ? Honnêtement, bon, je ne vais pas toujours dire qu'avant c'était mieux, mais c'est vrai que les aménagements touristiques qui avaient été faits dans le site n'étaient pas du meilleur goût ces dernières années. Des grands hôtels avaient surgi un peu trop près, on va dire, des ruines, un peu trop visibles, un peu trop moches hein, sur le plan architectural. Bon, on aurait pu s'en passer.
Il fallait répondre à une demande touristique.
Alors, il y avait une demande touristique, et puis, bon, encore une fois, on est dans un pays où il suffit d'avoir de l'argent pour obtenir ce qu'on veut. Donc, les hôtels ont un peu trop poussé. Bon, le site, c'est vrai que plus il y avait de touristes, plus la suscité de convoitise de la part de ceux qui pouvaient en tirer bénéfice. Les petits marchands à la sauvette, les... Bon, mais c'était sympathique. Hein. Je ne veux pas dire que c'était abominable. Non, le site était resté quand même très largement magnifique. On peut, même s'il y a eu des changements, c'était quand même très magnifique.
Retour à Palmyre, l'intégralité de cette série est désormais disponible à la réécoute et au podcast. Merci beaucoup Annie Sarthe-Fauria d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été avec nous cette semaine. Je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à Palmyre, Palmyre, la cité des caravanes, Zénobie de Palmyre à Rome, le prochain Palmyre, Vérité et Légende sort au mois de mai, c'est bien
oui,
ça ?
Oui, alors toujours à quatre mains, puisque les trois livres que vous venez de citer sont écrits en collaboration. Il ne faut pas que je l'oublie quand même, avec mon mari Maurice Sartre,
merci.
Qui est aussi un spécialiste de la Syrie.
Merci voilà. De cette précision. Et je rappelle que vous êtes professeur d'histoire ancienne émérite de l'université d'Artois. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Et en ce vendredi 11 mars, journée spéciale consacrée à la série Syrie, la guerre qui change le monde, mon invité est l'artiste plasticien syrien Hamid Souleyman. Bonjour.
Bonjour Taoufi.
Merci d'être venu ce matin. Vous avez 30 ans, même pas d'ailleurs. Vous avez
même pas.
Même ouais. Pas.
Bientôt.
Bientôt, vous allez avoir 30 ans dans 4 années en France.
Ouais,
c'est bien ça. Vous allez nous raconter votre vie à Damas, votre exil, les raisons de votre exil. Et puis, on parlera de votre bande dessinée, votre roman graphique qui va sortir bientôt, Freedom Hospital. Juste une parenthèse pour vous parler du Forum Histoire qui aura lieu donc demain, samedi, à la Sorbonne, au grand amphi de la Sorbonne. Les tables rondes commencent à partir de 10h. Et si vous voulez y participer, n'oubliez surtout pas de vous inscrire sur franceculture.fr. Une journée spéciale consacrée à la série avec ce dernier épisode consacré à Palmyre. Alors justement, est-ce que vous êtes déjà allé à Palmyre, Hamid Souleyman ?
Oui, je suis allé à Palmyre quand j'étais un enfant. Ça fait presque 20 ans.
Qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Bah, c'est un patrimoine du monde. En fait, ce n'est pas quelque chose qui est juste syrien, c'est un... c'est l'histoire là-bas, c'est une histoire pour le monde entier, pour le développement de civilisations, c'est un symbole des villes, du désert, un symbole de résistance. Les gens qui sont résistés à construire cette ville au milieu du désert.
Alors, parlons un peu de votre vie, cette vie que vous avez décidé, Hamid Souleyman, en tant qu'artiste plasticien, de raconter en passant par la bande dessinée. Je rappelle que Freedom Hospital, la bande dessinée sera disponible en exclusivité la semaine prochaine pour le salon du livre. Sinon, le livre ne sortira en librairie que le 15 avril. Mais entre-temps, vous aurez l'occasion d'exposer vos planches aussi bien à Paris, durant le salon du livre, qu'il faut appeler maintenant Livre Paris, qu'au festival de Bastia, très bon festival d'ailleurs, de bande dessinée qui aura lieu à la fin du mois. S'il fallait parler justement de cette histoire, pour vous, apparemment, ce Freedom Hospital, est-ce qu'il a existé ?
Le Freedom Hospital, en fait, ça, pour moi, ça représente un mouvement des actes militants civils pendant la guerre. Mm-hmm. Parce que toujours quand on parle de la guerre en Syrie, on parle souvent des immigrants, de l'État islamique. Et derrière tous ces mots,
tous les militants pacifiques qui se sont mobilisés pour se rendre en Syrie ou à la frontière syrienne justement pour faire des actes.
En fait, moi, je voulais juste mettre derrière ces mots, elles sont où les civils, elles sont où les gens qui essayent de faire quelque chose maintenant dans une situation de guerre. En Syrie, il y a des gens qui cherchent de faire des hôpitaux clandestins. Il y a des gens qui travaillent avec l'aide pour les réfugiés qui sont déplacés en Syrie à l'intérieur. Il y a des collecteurs de profs. Il y a beaucoup de civils qui se trouvent obligés à être impliqués dans la guerre, dans une situation ou un autre, parce que vous ne pouvez pas vivre dans une guerre et être neutre ou être à l'extérieur de cette guerre. Chaque personne, il y a un impact énorme sur chaque Syrien à l'intérieur de la Syrie et à l'extérieur dans le monde entier. Et vous, comme un Syrien, vous pouvez pas échapper de ça. Mmh. Et du coup, je voulais juste, je ne dis pas la réalité, je ne dis pas qui j'ai la réalité de qu'est-ce qui se passe en Syrie, parce que je pense que personne aujourd'hui peut dire exactement c'est quoi la réalité en Syrie.
À travers vos personnages, on a l'impression, Hamid Souleyman, que votre principal souci était de représenter toute la mosaïque syrienne, c'est-à-dire toutes les tendances, mais aussi surtout toutes les appartenances culturelles, religieuses.
En fait, le vrai héros dans l'histoire, c'est l'hôpital. C'est ça pour moi, la personnage principal. En fait, moi, je voulais écrire avec ce style-là parce que vous connaissez dans le monde arabe, il y a pas mal des auteurs comme Najib Mahfouz, comme Ala Aswani, Najib qui a gagné le prix de Nobel. Et en fait, il y a un style de parler de société à partir d'un endroit.
Oui, à partir
du coup, comme Ala Aswani, quand elle a écrit Chicago, c'est une histoire qui raconte des exemplaires de toutes les expatriés égyptiens. À Chicago, aux États-Unis, ou le mobile jacobien qui parle pareil. Et du coup, moi, je trouve aussi qu'un peu dans le monde arabe, la vie, c'est moins individuel qu'en Europe. Du coup, dans la littérature, ici, en Europe, on trouve souvent les littératures qui prend un seul héros du début jusqu'à la fin.
Alors que là, c'est le collectif. Vous avez raison de
Et à la même temps, de vivre dans une guerre, vous êtes toujours il y a toujours l'attention de la société qui est autour de vous. Et du coup, suivant vos actes sont liés ou à votre société. Et dans une situation de guerre, quand tout le monde dans votre quartier va porter l'arme, ce sera logique que vous allez porter l'arme si dans votre société il y a des gens qui ont décidé de quitter la Syrie. C'est normalement vous trouvez qu'il y a une ville où tout le monde dans la ville a échappé le même jour. Des fois, ça arrivait. Du coup, c'est une histoire de société, l'histoire de guerre. C'est un peu un reflet de problèmes énormes dans la société.
C'est un témoignage poignant, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le récit, la guerre se prolonge et le nombre de victimes augmente. D'ailleurs, c'est scandé comme ça, votre bande dessinée, votre roman graphique, Hamid Souleyman, même si dès le début, on sent qu'on va parler de choses dramatiques, que cette chose dramatique, qui est la guerre en Syrie, continue. C'est toujours l'actualité, et avec cette dédicace en préambule, puisque ce roman graphique, vous l'avez dédié à un de vos amis qui, lui, est mort.
Exactement. En fait, moi, autant d'artistes qui viennent d'un pays où il y a la guerre, je ne peux pas travailler sur autre chose. Moi, je voulais dire qu'après 5 ans de guerre, j'ai vraiment envie que cette guerre arrêtera. et que les Syriens ils vivent en paix parce que tout le monde le mérite de vivre en paix. Et à la même temps, moi, j'ai pris une décision trop claire depuis le début de guerre que je vais dessiner la guerre pour lutter pour la paix. Parce que on a besoin toujours à dire même si tout le monde le sache que faire la guerre, ce n'est pas de bien, qu'il faut pas toujours résoudre tous les problèmes avec les armes. On le sait, les gens le disent tout le temps, mais ça arrive, et ça arrive souvent, et ça arrive beaucoup, et on voit maintenant dans le, en Syrie, en général, dans la région, en Irak, en Syrie, Afghanistan, Yémen, Libye, il y a la même guerre géopolitique, il y a le même conflit chiite, sunnite.
Rami Sulaiman, comment vous avez fait pour quitter Damas? D'abord, c'était quoi le jour où bascule, le jour où vous avez pris la décision de quitter le pays, de prendre les routes de l'exil?
En fait, j'ai pas pris la décision de quitter la Syrie. J'étais obligé à quitter la Syrie. J'étais emprisonnier en Syrie. Et après, j'étais obligé d'aller en tribunal parce que tout ce que j'ai fait, j'ai dessiné et j'ai manifesté. Et le régime, elle m'a accusé de soutenir le terrorisme. Et du coup, quand j'avais la chance d'être libre pour quelques jours avant d'aller au tribunal, j'étais obligé à partir.
Ouais, vous avez commencé par l'Égypte. Hein,
et même, j'ai pas dit au revoir à mes amis, j'ai pas dit au revoir à personne. J'ai pris une valise, je me suis mis dans un taxi et je suis allé en Jordanie.
Et après la Jordanie, vous avez...
Égypte.
Ouais. Et qu'est-ce qui vous pousse à quitter tout le monde arabe, toute la région arabe, pour venir en Europe? Là, vous êtes installé à Paris, vous êtes artiste, Hamid Sulaiman. Est-ce qu'il y avait un certain moment, en quittant cette région, peut-être la perte de confiance que ce conflit ne se règle pas tout de suite ou qu'il risque de s'éterniser, de s'enliser?
En fait, pour moi, je me suis dit que je vais m'installer en Égypte pour voir. Je ne savais pas si je vais rester un mois, deux mois, dix ans ou toute la vie. J'ai aucune idée, j'ai pris un peu de temps pour voir aussi en Égypte, la situation c'était pas stable au niveau d'art aussi, ou du marché d'art, c'était même difficile pour les Égyptiens. Et à la même temps, moi, toujours, c'était mon rêve de faire la bande dessinée, et je pense, si je ne suis pas venu à Paris, je ne serais pas capable à le faire.
Ouais. Merci beaucoup, Hamid Sulaiman, d'avoir été notre premier invité dans cette journée spéciale, Syrie, la guerre qui change le monde et qui continue. Allez, on y va, on fait le générique.
Ok.
En deux langues. Ok. C'était un autre jour est possible.
من الممكن يوم آخر.
Une émission de Tawfiq Hakem que vous pouvez écouter tous les jours de la semaine à 6h du matin ou quand bon vous semble en passant par le podcast et l'écoute en ligne disponible sur franceculture.fr.
برنامج إذاعي لتوفيق حاكم يمكنكم الاستماع إليه يوميا الساعة السادسة صباحا أو متى ما أردتم على موقع franceculture.fr.
Émission préparée avec Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet. Un autre jour est possible et réalisé par Thomas Duterre avec ce matin à la technique Bernard Lagnel.
بمساعدة Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet, إخراج Thomas Duterre.
Merci beaucoup, Hamid Sulaiman. Dans un instant, Guillaume Erner et l'équipe des Matins de France Culture, avec comme invité pour cette journée spéciale Syrie, Hubert Védrine et la journaliste franco-syrienne Hala Kodmani. Bonne matinée sur France Culture.